Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde. Salut à tous, vous êtes sur RDIWA 107.5. La pensée des peuples vous interpelle sur ce qu'est la désobéissance. Françoise Hénaff cite « Si désobéir, dans certains épisodes de la vie, correspond à mettre sa vie en péril, certaines fois, cela permet au contraire de survivre et d'échapper à des situations scabreuses. » Je vous propose aujourd'hui des contes, des citations, de la musique et quelques mots qui nous permettent de nous poser la question sur ce qui guide nos choix, nos décisions, à quoi obéit-on ?
Rébellion.
Souveraineté.
Résistance.
Décider.
Résistance.
Indiscipline.
Grandir.
Grandir. Et si désobéir, c'était grandir?
Être en accord avec soi-même.
Être en accord avec les autres.
Et si désobéir, c'était grandir? Et si désobéir, c'était obéir à son cœur, à son cœur, à son cœur?
Dignité de soi.
Paix.
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 Amour.
Rébellion.
Se tromper.
Souveraineté.
Intuition.
Colère.
Pirate.
Risquer, risquer.
Révolte.
Décider.
Non-violence.
Indiscipline.
Colère.
Colère.
Amour.
Non-violence.
Dignité de soi.
Rébellion.
Colère.
Indiscipline.
Rugie.
Être en accord avec soi-même.
Se tromper.
Se tromper.
Se tromper.
Intégrité.
Intégrer.
Intégration.
J'intègre ma dignité.
Intégrer. Respecter.
La souveraineté.
Intuition.
Intuition. Intuition. Résistance.
Intuition. Exprimer ce que l'on veut. Veut.
Veut.
Veut.
Obéir à soi-même.
À soi-même.
Soi-même.
Intuition.
Rébellion.
Intuition.
Rébellion.
Solution.
Solution. Décision. Décision.
Indiscipline.
Bien. Mal. Bien. Mal. Bien. Mal.
Mal.
Mal. Bien. Mal.
Mal.
Mal. Bien. Mal.
Grandir.
Mal. Bien.
Grandir.
Bien. Mal. Bien. Mal.
Être en accord avec soi.
Bien. Bien. Mal.
Révolte.
Paix.
Colère.
Esprit de rébellion.
Rébellion.
Révolte.
Révolte.
Souveraineté.
Refus de se soumettre.
Soumission. Insoumission.
Risquer. Paix. Décider.
Danger.
Autorité.
À écraser.
Résistance.
Pouvoir. Solution.
Rébellion.
Solution.
Souveraineté. Grandir. Paix. Décider.
Amour.
La dose.
La dose d'amour.
La dose d'amour. Thank you.
être libre sans obéir? Puis-je être libre sans le droit à la désobéissance? Nos choix sont ce balancement entre désobéir et obéir. Accepter pour être avec les autres, accepter pour œuvrer ensemble. Obéir parce qu'on a confiance. Obéir parce que le prix de la désobéissance serait trop élevé. Ou désobéir pour nous affirmer. Désobéir parce que c'est immoral, parce que notre honneur, notre conscience nous y oblige. Celui qui obéit a des ordres inéquitables et tout aussi responsable que celui qui ordonne. Obéir ou désobéir reflète la querelle incessante en nous-mêmes, de la contradiction dans nos vouloirs. Faire ses choix, c'est savoir prendre notre responsabilité devant les autres comme devant soi. Cela est aussi le prix de l'humanité. C'est la conclusion d'un débat d'un café philo à Chevilly-Larue. Paradis des enfants, dans le premier livre des merveilles, de Nathaniel Hawthorne. Jadis, au premier temps du monde, vivait un petit garçon, nommé Épiméthée. On ne lui connaissait ni père ni mère, et afin qu'il ne s'ennuyât pas tout seul, on lui envoya pour jouer avec lui une petite fille, qui, elle non plus, n'avait pas de père ni de mère. Elle s'appelait Pandore, et venait d'un pays lointain. Dès qu'elle entra dans la cabane où habitait Épiméthée, elle s'étonna à la vue d'une grande boîte et sa première question fut « Épiméthée, dis-moi, qu'y a-t-il dans cette boîte ?»« Oh, Pandore, c'est un secret. Moi-même, je n'en sais rien. Tout ce que je puis te dire, c'est qu'on l'a déposée, ici, pour la mettre en sûreté. Qui te l'a donnée ?» Encore un secret. « Et d'où vient-elle ? Toujours un secret. » Pandore fit la moue. « Voilà bien des embarras pour cette vilaine boîte, » dit-elle dépitée. « Si c'est comme ça, que les dieux nous en délivrent. Ne te fâche pas et n'y pense plus. Allons jouer dehors. » En cet heureux temps, le monde ignorait ces affreux monstres ailés qu'on appelle les soucis et les peines. Ils n'avaient pas encore paru sur la terre. On trouvait des déjeuners tout préparés sous les arbres. Les habits ne s'usaient guère. D'ailleurs, on ne se donnait jamais la peine de les raccommoder, car il y en avait de toutes les couleurs dans tous les coins, et il suffisait de les y prendre. Dans le pays d'Épiméthée, point de papa ni de maman, rien que des enfants, qui passaient leur temps à jouer et à danser. Ils n'avaient aucune leçon à apprendre, aucun devoir à faire, et l'on entendait partout fuser des chants et des rires. Ils s'entendaient très bien, ces enfants, ne se disputant jamais, ne se mettant jamais les uns contre les autres, ne boudant jamais. Ah, comme il faisait bon vivre alors! Cependant, Pandore ne cessait pas de se demander ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette boîte. Cela devenait comme un tourment, comme une légère ombre sur son bonheur. Et l'on eût dit que cette ombre prenait corps, car la cabane d'Épiméthée et de Pandore était un peu plus sombre que celle des autres enfants. « D'où vient cette boîte et qui a-t-il dedans ?» répétait-elle comme un refrain. Toujours la même question, s'écria enfin Épiméthée, à bout de patience. « Au lieu de rester planté là, devant cette boîte, tu ferais mieux de venir cueillir des figues avec moi. Elles sont juste à point et délicieuses. Je me moque bien des figues. » Aimerais-tu mieux jouer à Colin Maillard avec les autres? Les jeux m'ennuient, je ne pense qu'à cette boîte. Pourquoi ne veux-tu pas me dire ce qu'elle contient? Mais pour la bonne raison que je n'en sais rien. Alors ouvre-la. L'ouvrir, s'écria Épiméthée, indigné. Mais on me l'a confiée, en me faisant promettre de ne pas y toucher. Tu voudrais que je manque à ma parole? Dis-moi au moins comment elle est venue ici. Eh bien, un homme qui portait un curieux manteau et un drôle de petit chapeau, avec des ailes, l'a laissé devant la porte. Il avait l'air malicieux comme tout, et je me rappelle de son rire narquois. Avait-il un bâton par hasard? Des plus étonnants qu'on puisse voir. Une baguette autour de laquelle se tordaient deux serpents, si bien faits qu'on aurait cru vivants. Je le connais, dit Pandore d'un air pensif. C'est lui qui m'a amené ici, tout comme la boîte. Et on le nomme Vif Argent. Tu vois, la boîte est sûrement pour moi. Elle doit contenir des habits, des jouets, des bonbons. Ouvrons-la vite. « Tu as peut-être raison, » dit Épiméthée, « mais je ne soulèverai pas le couvercle avant que Vif Argent me l'ait permis. » Et pour bien montrer qu'il était inutile d'insister, il s'éloigna. C'était la première fois qu'il sortait sans demander à Pandore de le suivre. Il n'y a rien à faire de ce garçon, s'écria Pandore. Il est vraiment trop craintif. Et elle se perdit dans la contemplation de la boîte. Celle-ci était un véritable meuble, de 3 pieds de long, sur 2 pieds et demi de haut, fait d'un bois précieux, sillonné de veines délicates, et si bien poli, qu'on s'y voyait tout aussi clairement que dans un miroir. Les bords et les angles, par contre, en étaient ciselés, avec quelques habiletés merveilleuses. On y voyait comme une guirlande d'hommes, de femmes et de petits enfants, les plus jolis du monde, qui s'ébattaient parmi les fleurs et les feuillages. Une fois ou deux, Pandore crut distinguer, à travers la ramure, une figure un peu moins belle que les autres, et qui semblait déparer l'ensemble. Mais lorsqu'elle s'approchait, pour mieux la regarder, il n'en était plus de même. La figure devenait toute charmante. Sûrement, se disait-elle, je me suis trompée. Au milieu du couvercle bien lisse et bien poli, où se reflétait la lumière, une seule figure, couronnée de fleurs, souriait. C'est du moins ce qu'il avait semblé à Pandore quelques instants plus tôt. Mais à présent, les lèvres de la figure étaient redevenues sérieuses. Ah, voici le sourire de nouveau. Maintenant, il s'efface. Et pourtant, la figure est toujours immobile. C'était assurément une malicieuse petite créature, et si elle avait pu parler, elle aurait dit à travers ses sourires fugitifs. De quoi as-tu peur, Pandore? Ouvre la boîte, ouvre la boîte. Quel mal y aurait-il à cela? Tu ne vas pas t'en faire accroire par ce petit épiméthée. D'ailleurs, les filles ont beaucoup plus d'esprit que les garçons. Ouvre la boîte, ouvre la boîte, si tu savais toutes les jolies choses qu'il y a dedans. Il faut dire que la boîte était dépourvue de serrure, donc pas besoin de clé. Mais avant de soulever le couvercle, il fallait surmonter un obstacle, celui d'une cordelette d'or, qui faisait tout le tour, attachée par un nœud extraordinairement compliqué. On ne voyait vraiment pas où il commençait, ni où il finissait. « Si je voulais défaire ce nœud, se dit Pandore, à voix basse, comment m'y prendrais-je? Commencerais-je par ici ou par là? Il me semble qu'il faudrait d'abord desserrer cette boucle, puis faire glisser ainsi la cordelette. Oui, je crois que je saurai. Ce n'est pas que j'ai l'intention d'ouvrir la boîte, mais je voudrais venir à bout de ce nœud. Après cela, je le referai. Épiméthée lui-même n'aura rien à me reprocher. » Comme elle murmurait ces mots, ses doigts déjà, sans qu'elle s'en rendît bien compte, travaillaient. Elle avait découvert les deux bouts de la corde, qui n'étaient pas très serrés, et qui se laissaient aisément manier. Si emmêlée qu'elle fût, en une centaine de nœuds peut-être, qui n'en formaient qu'un seul, il suffisait d'un peu d'adresse et de patience pour dénouer le tout. À ce moment, Pandore crut entendre remuer dans la boîte. Elle appliqua son oreille contre le bois, retenant son souffle pour mieux écouter. N'était-ce pas un chuchotement étouffé que l'on percevait à travers la paroi? À moins que ce ne fût tout simplement le bruit de son propre cœur qui, à présent, battait à tout rompre dans sa poitrine. À force de tendre l'oreille, elle entendit aussi des cris de joie et les rires des enfants qui jouaient à Colin Maillard, non loin de là. Il lui sembla même reconnaître la voix d'Épiméthée. Et, juste au même instant, un rayon de soleil entra dans la chambre, comme pour l'inviter à s'élancer au dehors et à rejoindre ses compagnons. Il tomba droit sur le couvercle, éclairant la figure couronnée de fleurs, qui paraissait grimacer un étrange sourire. Comme elle a l'air moqueur et menaçant, se dit Pandore, serait-ce parce que je suis en train de mal faire? J'ai bien envie de laisser là ce nœud et d'aller courir au soleil. Mais il était trop tard, ses doigts, comme à son insu, avaient continué à dénouer la cordelette, qui tomba d'elle-même à terre, libérant entièrement le couvercle. « Il faudrait que je refasse ce nœud, dit Pandore. Mais comment donc était-il? La cordelette revenait ainsi sur elle-même, puis ainsi? Non, ce n'est pas cela. Essayons de cette manière d'abord. Une boucle, ensuite une seconde, puis... Ah, je ne sais plus. Jamais je ne retrouverai la façon de ce nœud. Et Épiméthée s'apercevra sûrement que je l'ai dénoué. » Elle réfléchissait, et tout à coup, une vilaine petite pensée se glissa dans son cœur. « Quand Épiméthée verra que j'ai dénoué la cordelette d'or, pour sûr, il croira aussi que j'ai soulevé le couvercle, pour regarder dans la boîte. Jamais je ne pourrai lui prouver le contraire. De toute manière, je serai grondée. Alors, autant regarder. Après tout, Qu'y a-t-il de mal à jeter un coup d'œil dans une espèce de coffre à vêtements ou à joujoux qui m'est probablement destiné ? Tandis que la curiosité lui soufflait ces choses, il lui sembla que des chuchotements reprenaient de plus belle dans la boîte, et même qu'il disait « Fais-nous sortir, fais-nous sortir. Cher Pandore, fais-nous sortir. Cher Pandore, délivre-nous. Nous serons gentils pour toi. Fais-nous sortir, fais-nous sortir. Nous sommes là dans le noir. Je t'en prie, nous jouerons avec toi. » On aurait dit non pas une voix, mais 1000 petites voix prisonnières, suppliantes. Qui donc cela peut-il être ? Se demanda Pandore. Certainement des créatures vivantes. Décidément, je n'y tiens plus. Il faut que je soulève ce couvercle. Ne serait-ce qu'une seconde. Je le refermerai tout de suite après. Mais revenons à Épiméthée. Comme nous l'avons dit, c'était la première fois que, là des questions de Pandore, il l'avait laissé seul dans la cabane. Il s'en fut rejoindre ses camarades de jeu pour cueillir avec eux des raisins et des figues. Mais les fruits ne lui semblèrent pas aussi savoureux que d'habitude et ses amis ne parvinrent pas à l'égayer. Pour la première fois de sa vie, il était triste et inquiet. Et, la chose étant toute nouvelle pour lui, il ne comprenait rien. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, personne au monde ne connaissait la peine. Il essaya bien de faire semblant d'être joyeux, mais il ne réussit pas du tout. Ses camarades n'y comprenaient rien. Lui qui était d'habitude le plus gai de tous, il ne riait pas, il ne soufflait mot, il avait l'air absent. Bientôt, il leur dit au revoir, se décidant à retourner auprès de Pandore. Comme elle était d'humeur chagrine, il s'entendrait sans doute mieux avec elle qu'avec les rieurs. En chemin, il cueillit pour elle des lys, des roses et des fleurs d'oranger, dont il tressa, tout en marchant, une couronne. Oh, sans doute, des doigts de petite fille l'aurait-il mieux tressé. Mais enfin, ce n'était pas si mal que ça pour un garçon. À présent, il pressait le pas, car de gros nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel. Sans doute se préparait-il un terrible orage. Jamais il n'avait fait si sombre, non, jamais depuis le commencement du monde. Il n'avait fait si sombre en plein jour. Quand Épiméthée eut atteint la cabane, il s'y glissa doucement, sans faire de bruit. Il espérait surprendre Pandore en s'avançant à pas de loup derrière elle, et en lui posant soudain sur la tête la couronne de fleurs. À vrai dire, il n'aurait pas eu besoin de prendre tant de précautions, car Pandore était trop bien occupée par la boîte pour prêter attention à sa venue. Elle avait la main sur le couvercle, et il était clair qu'elle se préparait à le soulever. Épiméthée fut sur le point de jeter un cri et de courir vers Pandore pour l'empêcher de faire ce geste fatal. Mais il se ravisa. Ses lèvres entrouvertes se refermèrent. Son bras tendu en avant retomba le long de son corps. Et il resta immobile. C'est que la curiosité de Pandore avait fini par le gagner. Lui aussi maintenant voulait savoir ce que pouvait bien contenir la mystérieuse boîte. Puisque Pandore avait dénoué la cordelette et qu'elle allait soulever le couvercle, pourquoi ne pas la laisser faire ? Après tout, il n'y était pour rien, et personne ne pourrait l'en blâmer. Ce n'était pas là un très joli sentiment, car Épiméthée voulait en somme rejeter tout le fardeau de la faute sur Pandore. Quant à lui, il se contenterait d'en profiter. Oh, il ne se rendait pas compte qu'il faisait ce vilain calcul, et si quelqu'un s'était trouvé là pour lui dire, il aurait eu honte de lui-même, et il se serait hâté d'arrêter la main de Pandore. Mais voyez-vous, il n'y avait personne pour lui faire comprendre cela. La curiosité de savoir enfin quelles étaient les belles choses qui se cachaient dans la boîte, et aussi le désir d'en avoir sa part, occupait entièrement son cœur. Entre les doigts de Pandore, le couvercle lentement se soulevait. Bientôt, la petite fille fut capable de jeter un coup d'œil dans la boîte. À l'instant même, retentit un épouvantable coup de tonnerre. L'orage avait éclaté. D'épais nuages couvrirent entièrement le soleil, et la cabane fut plongée dans l'obscurité. C'est à peine si Pandore distingua un essaim de petites créatures ailées qui s'échappaient de la boîte, en venant battre son visage, et qui se mirent à voler dans la pièce. « Oh !» cria tout à coup la voix d'Épiméthée, avec un accent de douleur. « Oh, elle me pique ! Elle me pique ! Referme vite la boîte, Pandore !» Pandore lâcha le couvercle, qui retomba. Trop tard, hélas. Elle regarda autour d'elle, cherchant où se trouvait Épiméthée, mais la cabane était tellement assombrie qu'elle ne pouvait rien distinguer. Elle entendait par contre un bourdonnement incessant, à droite, à gauche, tout autour de sa tête. On aurait dit qu'une foule de grosses mouches s'étaient réunis là, avec une armée de guêpes, une escouade de moustiques, une compagnie de bourdons, et sans frelons. Peu à peu, ses yeux s'accoutumèrent à l'obscurité. Et elle vit les petits êtres qui faisaient tout ce bruit. C'étaient d'horribles créatures, mi-oiseaux, mi-insectes, avec des ailes de chauve-souris. Une queue noire et pointue, armée de longs dards, et l'air horriblement méchant. Tout à coup, elle se sentit piquée au front par l'un de ces petits monstres. Elle essaya de le chasser, mais en vain. Il revenait sans cesse à elle, la piquant de plus en plus cruellement. La pauvre Pandore ne savait plus que faire. Les pensées s'évanouirent de douleur, lorsqu'Épiméthée courut à elle et parvint à la délivrer de son bourreau. Savez-vous quelles étaient ces dégoûtantes créatures ? Rien d'autre que tous les maux, encore inconnus de la terre, qui allaient maintenant harceler les hommes. La boîte ne contenait ni jouets, ni beaux habits, ni friandises, mais bien l'horrible famille des ennuis, toutes les variétés des peines, une foule de petites malices, 313 sortes de chagrins et de soucis, 179 espèces de mauvaises passions et toutes les maladies imaginables. Voilà ce qui avait été confié à la garde d'Épiméthée. Sans qu'il le sût, voilà ce qui serait resté enfermé à jamais dans la boîte si les deux enfants étaient demeurés fidèles à leur mission. Alors personne n'aurait eu à souffrir, pas une larme ne serait tombée en ce monde. Mais peut-être pensez-vous qu'on aurait pu essayer, du moins, de retenir les vilaines petites bêtes dans la cabane ? Épiméthée et Pandore en auraient été quittes pour changer de maison. Sans doute, mais ils n'y songèrent pas. Ne sachant d'ailleurs à qui ils avaient affaire, leur premier soin fut au contraire d'ouvrir toutes grandes les portes et fenêtres, afin de se débarrasser au plus vite des petits monstres. Et ceux-ci en profitèrent aussitôt pour se répandre au dehors. Bien malins maintenant, qui les ferait rentrer dans la boîte ? Ils s'éparpillèrent aussitôt par toutes les régions habitées, piquant, harcelant, tourmentant les enfants, qui avaient été jusque-là si heureux. Et ceux-ci se mirent à grandir, à devenir des hommes pleins de soucis, puis des vieillards, branlants, tout proches de la tombe. Il en fut de même des animaux, il en fut de même des plantes. Et l'on connut pour la première fois des fleurs flétries, des arbres morts. Cependant, Pandore et Épiméthée étaient toujours dans la cabane. Plus rien ne volait autour d'eux, mais ils ressentaient toujours leurs piqûres. Avec cela, ils étaient d'humeur massacrante. Épiméthée alla s'asseoir dans un coin, en tournant le dos à Pandore. Celle-ci était étendue sur le sol, la tête appuyée sur la fâcheuse boîte. Et de temps en temps, un sanglot secouait ses épaules. Soudain, elle entendit frapper un coup léger derrière le couvercle. « Qu'est-ce que cela peut être ? » s'écria-t-elle en relevant vivement la tête. « Épiméthée ?» Épiméthée ne répondit pas. Il boudait. Le bruit reprit avec plus d'insistance. On aurait dit qu'un menu doigt de fée tapait à l'intérieur de la boîte. « Qui êtes-vous ? » demanda Pandore, saisie à nouveau de curiosité. « Soulevez le couvercle, » répondit la petite voix, harmonieuse, « et vous verrez. » « Ah non, » répondit Pandore, « pour qu'il sorte encore de cette boîte de vilaines créatures qui se mettent à me piquer. Il me suffit d'avoir vu vos frères et vos sœurs. Restez où vous êtes. » « Vous vous trompez, » reprit la voix avec douceur. « Je ne suis pas de ces vilains insectes qui ont une épine pour queue. Ouvrez-moi, gentil Pandore, je vous promets que vous n'aurez pas à le regretter. » La voix était si plaisante, si enchanteresse, qu'il était difficile d'y résister. Comment croire qu'elle pût appartenir à une vilaine créature ? Elle avait une douceur consolante, et Pandore se sentait déjà à demi soulagée. Épiméthée avait dû entendre lui aussi, car il s'était retourné dans son coin, et il semblait tendre l'oreille. « Cher Épiméthée, lui demanda Pandore, as-tu entendu comme moi cette douce petite voix ?»« Oui, répondit-il d'un ton encore maussade. Et puis après, c'est qu'elle me demande de lever le couvercle ?»« Comme tu voudras. Après tout le mal que tu as causé, cela n'a guère d'importance. Une peine de plus ou une peine de moins ne rime pas à grand-chose. Oh, ne sois pas méchant pour moi, dit Pandore en s'essuyant les yeux. J'ai été bien puni, je t'assure. » Le méchant garçon, cria la petite voix dans la boîte, avec un rire moqueur. Au fond, il a bien envie de me voir lui aussi, mais il ne veut pas le dire. Épiméthée ne répondit pas, confus d'avoir été deviné. Allons, chère petite Pandore, reprit la voix, soulève le couvercle et rends-moi ma liberté. Il me tarde de te consoler, de vous consoler tous les deux. Ouvre ma prison, laisse-moi respirer à l'air pur, et je te montrerai que les choses ne sont pas aussi tristes que tu le crois. Il y eut un silence, et puis Pandore s'écria tout à coup. « Advienne que pourra. Épiméthée, je suis décidée à ouvrir. » Mais le couvercle semblait cette fois plus lourd à manier. Ses petites forces n'y suffisaient pas. Attends, lui dit Épiméthée, je vais t'aider. Et, s'élançant de sa place, il saisit l'autre côté du couvercle. À eux deux, ils l'eurent bientôt soulevé. Aussitôt, une ravissante petite personne, vive et gracieuse comme une fée, s'échappa de la boîte, entrebâillée, et se mit à voleter dans la cabane. Avez-vous jamais fait danser un rayon de soleil à l'aide d'un miroir ? C'est avec la même légèreté que la lumineuse créature bondissait, çà et là, dissipant l'obscurité sur son passage. Bientôt, il fit tout à fait clair dans la pièce. La jolie étrangère ailée s'était posée un instant sur le doigt d'Épiméthée, puis avait effleuré d'un baiser le front de Pandore. Et maintenant, ils ne ressentaient plus, ni l'un ni l'autre, aucune douleur. Leur piqûre était guérie. Ils regardaient avec émerveillement et reconnaissance la délicieuse petite apparition qui, debout sur le couvercle de la boîte, leur souriait, de la meilleure grâce du monde. « Quand je pense que vous étiez enfermé là-dedans, avec les vilaines bêtes à queue pointue, » s'écria Épiméthée. « Quand je pense que j'ai hésité à vous délivrer, » s'écria Pandore. « Vous ne pouviez pas savoir que j'étais différente des autres habitants de la boîte, » dit la petite fée, avec indulgence, en faisant miroiter ses ailes plus fines que celles d'une libellule. « Vos ailes ont les couleurs de l'arc-en-ciel, » dit Pandore, « comme elles sont belles. Si elles ressemblent à l'arc-en-ciel, » répondit la fée, c'est qu'elles sont faites à peu près de la même matière. Sinon, de soleil brillant à travers la pluie. Du moins, de sourire brillant à travers les larmes. « Voulez-vous rester avec nous ?» demanda timidement Épiméthée. « Oh oui, pour toujours, toujours !» s'écria Pandore. « Je resterai avec plaisir près de vous aussi longtemps que vous en aurez besoin, » répondit avec bonté la charmante créature. « Oui, tant que vous vivrez sur cette terre, je serai à vos côtés. » Il vous adviendra de croire que je me suis enfui, mais alors, si vous me cherchez bien, vous verrez briller mes ailes irisées dans quelque coin de la cabane. « Comment vous appelez-vous, madame ?» demanda Épiméthée, en hésitant un peu. Car il ne savait pas s'il fallait dire madame ou mademoiselle. « Je m'appelle Espérance, » répondit la fée, « et j'ai pour mission de consoler les hommes. C'est à cette fin que j'ai été enfermée dans la boîte avec ces horribles peines. Heureusement que vous m'avez délivrée, car je n'avais pas pu sortir en même temps qu'elle. » Elle adressa aux enfants son plus radieux sourire et reprit. « Je sais une chose très belle et très bonne qui vous sera donnée un jour. »« Oh, qu'est-ce donc ? Dites-le nous, » s'écrièrent-ils. Espérance posa son doigt sur ses lèvres de rose. « Chut, mes enfants, ne m'interrogez pas là-dessus. Je ne puis vous répondre. Mais surtout, ne désespérez jamais. Non, jamais. Quand bien même, vous ne verriez pas cette chose très belle et très bonne tant que vous serez sur la terre. Fiez-vous à ma parole, car c'est la vérité. » Ses ailes se mirent à vibrer, et elle s'envola tout en disant « Au revoir, ne vous attristez pas, je vais seulement consoler d'autres enfants, mais je reviendrai près de vous. » Elle laissa la cabane, tout illuminée.
J'espère qu'il a pas été sage aujourd'hui.
Je comprends pas. Pourquoi vous dites ça ?
Ben, je sais pas. Parce qu'il faut un petit peu savoir désobéir. Réinterroger le cadre, c'est une forme d'intelligence, non ?
Je regarde désobéir l'orage aux statistiques du prévaloir et je lui souris comme Horace avec une incisive noire. Soufflant fond du parc de mon sommoir, je trouve pas que ce soit dommage que les coups de foudre n'existent qu'aux urgences, les soirs d'orage au service des grands brûlés. Désobéir n'est pas juste un verbe quand t'observes ma peau embrumée de ces figures de Lichtenberg. Désobéir aux exactions des salazistes de Lisbonne, je suis protégé par le dragon, le griffon, le phénix et la licorne. Les grands esprits ne se rencontrent pas, les grands esprits sont solitaires. Je viens de ces latitudes qui comptent pas, où on est toujours seul sur terre. Les graines du mal dans mon sachet, si enfoncé puis germe. Les ténèbres ne m'ont pas caché, mais forment mon unique épiderme. Ils viendront me pendre à l'arbre, pendant que je serai en balade. La place du bien est en prison dans un système qui rend malade. Ils font passer des gens affables pour des mafieux de calabre. Car une hirondelle Twitter peut faire le printemps arabe. Moi je vais lober peine à me débarrasser de celle que j'aimais le soir.
Quand j'arrachais la haie d'aubépine pour embrasser mademoiselle Swan, je me mène loin dans la nuit et je n'agrippe plus le rivage. Si l'esprit est un grand navire, mon Titanic a pris le large, je reviendrai plus mon amour. Va voir le fils de chienne en face, je reviendrai plus mon ami, comme la varicelle et l'enfance. Berger, garde ton troupeau perdu de moutons qui ne savent plus bêler. Moi mes idéaux et perdurent au-delà de la nuit en voiture bélier. Je préfère mourir demain que de vivre vieux une vie sage. Prends des méandres au creux des mains et souffle-moi dans le visage. N'oublie jamais de jamais m'aimer, désobéir aux trucs trop bas. Surtout si c'est moi qui les ai dit, nos nuits de chevauchés sauvages. Ils viendront me pendre à l'arbre pendant que je serai en balade. La place du bien est en prison dans un système qui rend malade. Ils font passer les gens affables pour des mafieux de calab. Car une hirondelle Twitter peut faire le printemps arabe.
Ahmed, le cordonnier de Bagdad. Il était une fois à Bagdad un calife qui, pour imposer son autorité, avait instauré un couvre-feu. Pour surveiller son peuple, il avait décidé de se promener la nuit dans la ville. Le soir même, déguisé en porteur d'eau, le calife quittait son palais. En s'approchant d'une maison, il entendit des rires et des chants. Alors il poussa la porte et entra. Au milieu de la pièce, une table était mise et un bon repas était servi. Un homme et sa femme étaient assis autour. Ils paraissaient très heureux et très gais. La famille invite ce pauvre porteur d'eau à partager un bon moment avec eux. « Il n'est nul besoin d'être jour de fête pour se réjouir », lui expliqua Ahmed, le maître de maison. « C'est une grande joie, en effet, que de se reposer en famille. Vois-tu, je suis cordonnier. Toute la journée, je couds les babouches. » Et le soir, je dépense tout ce que j'ai gagné. Et pour nous, c'est la fête chaque soir. Est-ce bien sage de dépenser ainsi tout ce que l'on gagne ? Demanda le calife. Ne songes-tu jamais aux mauvais jours qui peuvent venir ? Ceux qui redoutent le lendemain se font un triste aujourd'hui, répondit le cordonnier. Il vaut mieux faire provision de joie que d'entasser l'or. Et quand on a les mains habiles et une tête sur les épaules, l'avenir ne fait pas peur. Demain est un autre jour. La vie y pourvoira. Mais si l'on fermait ton échoppe, que deviendrez-vous, toi et ta femme et tes enfants ? À mon pire ennemi, je ne souhaiterais pareil malheur. Mais bon, un homme qui sait réfléchir et qui ne craint pas le travail trouve un moyen de s'en tirer. Le lendemain, dès la naissance du jour, le calife donna l'ordre de fermer l'échoppe du cordonnier. Oh, ce n'était pas par méchanceté, mais pour faire comprendre au cordonnier son imprévoyance. Et riant dans sa barbe, le calife attendit la nuit pour sortir déguisé en porteur d'eau. Comme la veille, notre cordonnier était avec sa famille, à faire la fête. Et voyant le porteur d'eau, il l'invita à entrer. « Bonsoir, ami. Entre, viens t'asseoir à notre table. Est-ce que tu sais que par ordre du calife, on a fermé mon commerce, on m'a enlevé mon gagne-pain, mais moi, je ne me suis pas ému pour si peu. Tout le monde me connaît dans le quartier. » J'ai proposé mes services aux uns et aux autres. Je n'ai pas manqué d'ouvrage et j'ai même gagné plus que d'habitude. Aussi, mes amis, chantons, dansons, mangeons, buvons, faisons la fête. Ceux qui redoutent le lendemain se font un triste aujourd'hui. Il vaut mieux faire provision de joie que d'entasser de l'or. Et quand on a les mains habiles et une tête sur les épaules, l'avenir ne fait pas peur. Donc, demain est un autre jour. La vie y pourvoira. À l'aube, le calife fit venir le cordonnier dans son palais. Le cordonnier ne reconnut pas son ami, le porteur d'eau. Le calife lui tendit un grand sabre et lui ordonna de monter la garde à l'entrée de la salle d'audience. Prends ce sabre et va monter la garde devant ma porte. À la fin de la journée, Ahmed fut congédié et on ne lui donna même pas un dirham. Le calife pensait ainsi mettre le cordonnier dans l'impossibilité de pourvoir à la nourriture de sa famille. Cela lui servirait de leçon. Mais lorsqu'il arriva chez le cordonnier, tout le monde festoyait encore. Le porteur d'eau, calife, s'étonna. « Cordonnier, tu m'as caché que tu avais des économies. J'ai appris que tu étais réquisitionné comme garde toute la journée. Tu n'as donc pas pu gagner ton pain aujourd'hui. Ne me parle pas du calife. Que les puces le dévorent. J'ai passé la journée à user mon dos contre sa porte. Je suis rentré à la maison. Rien à manger, rien à boire. Alors, j'ai regardé ce grand sabre que l'on m'avait donné. Je me suis dit, ce calife est un imbécile. Son sabre vaut une fortune. Alors je suis allé vendre le sabre et j'en ai tiré plus d'argent que je n'en gagne en 3 jours. Et à sa place, j'ai mis dans le fourreau un sabre de bois que j'ai fabriqué. Il fera tout aussi bien l'affaire, après tout. Donc, mes amis, chantons, dansons, buvons, faisons la fête. Demain sera un autre jour, la vie y pourvoira. » Lorsque le porteur d'eau redevint calife, il rumina ces paroles. « Ah, le calife est un imbécile !» Et au matin, lorsque le cordonnier prit sa place de garde avec son sabre de bois, le calife, ayant une idée derrière la tête, fit appeler un serviteur et se mit à l'injurier et à le menacer. Pour finir, il appela le cordonnier et lui ordonna de trancher la tête du serviteur innocent. Le cordonnier essaie de s'en sortir comme il peut et il dit « Calife, grand et miséricordieux, lumière de l'Orient, cet homme ne voulait pas t'offenser, il s'est trompé de bonne foi. Pardonne-lui, Seigneur. Point de pitié pour ce fourbe. Tire ton sabre et coupe-lui la tête. Fais ton devoir, sinon c'est ta propre tête qui va tomber. » Que pouvait faire le cordonnier? Il poussa un grand soupir, leva les yeux au ciel et s'écria. « Que le sort en décide. Si cet homme est coupable, il mourra de ma main. Mais si, comme je le crois, il est innocent, ce beau sabre d'acier fin va se transformer sur le champ en un sabre de bois. » Le cordonnier tira le sabre du fourreau. Le sabre était en bois. Que pouvait faire le calife? Il y réfléchit, hocha la tête et se mit à rire. « Ah, rentre chez toi, cordonnier. Ouvre ton échoppe et continue à vivre comme tu as vécu. Je le vois bien à présent. Un homme tel que toi ne doit pas craindre l'avenir. Quoi qu'il arrive, tu sauras t'en tirer. Va en paix. Et sois heureux. » Le cordonnier est rentré chez lui. Et depuis, il continue de vivre comme il a toujours vécu. Toute la journée, il coud des babouches. Et le soir, avec sa famille, il mange, boit, rit et chante. Le cœur léger. Puissiez-vous en faire autant chaque soir de votre vie? Oh, vous qui m'écoutez!
Indiscipliné,
révolte,
rébellion,
dignité de soi,
pirate,
bien mal, bien mal, bien mal,
mal, bien,
devoir,
être en accord avec soi-même,
grandir,
et si désobéir c'était grandir,
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 dignité de soi,
intuition,
révolte,
paix,
paix,
solution,
décision, inconditionné,
inconditionnel,
inconditionnable,
indéfinissable,
indéfini,
imprenable,
insaisissable,
inimaginable,
impalpable. Thank you.
Dans son livre « Éduquer sans punir », Thomas Gordon écrit « L'obéissance à l'autorité enlève la maîtrise de soi et le sens des responsabilités. En tant que société, il est urgent de trouver, d'enseigner des procédés efficaces, non fondés sur l'autorité et le pouvoir, mais des solutions favorisant le développement de personnes assez courageuses, autonomes et disciplinées, pour ne pas obéir en contredisant leur notion de bien et de mal. »
À chaque mot que vous dites.
Prenez une chaise, asseyez-vous.
Mais quand tu réfléchis, tu réalises que parfois désobéir, c'est vital.
Merci pour votre écoute. Trouvons ce à quoi nous voulons obéir.